Mathieu Chédid, bonjour.
Bonjour.
Mystère, qui de nous deux, je dis M, ça fait presque une phrase. Ce sont parmi vos plus gros succès, M ou Mathieu Chédid. Vous êtes une des méga stars de la chanson française. Je me souviens qu'en 2010, vous aviez fait 12 concerts consécutifs à l'Olympia, 4 Zénith, 2 Bercy et le succès ne se dément pas. Il y a une énorme tournée qui se prépare, mais cette fois-ci dans une tonalité, dans un univers africain. Il y a un nouvel album qui sort, le 6e en studio. Il s'appelle L'Amomali, vous n'êtes pas tout seul. Est-ce que vous pouvez faire les présentations?
D'abord Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, donc père et fils.
Ouais.
Fatoumata Diawara, chanteuse princesse malienne.
Il faut dire que les Diabaté jouent de la kora.
Ah oui, évidemment. Les Diabaté sont des joueurs de kora. Et d'ailleurs, c'est une famille de griots, les Diabaté.
Ouais.
De père en fils, ils se transmettent l'art de la kora depuis 71 générations.
J'ai lu ça, j'ai cru que c'était l'âge. Non, non, c'est la génération.
Ouais. Ah oui, complètement. Et c'est pour ça que c'est un instrument complètement mystique, magique, divin, sacré, quoi. Parce que c'est d'ailleurs grâce à cette kora qu'ils peuvent marier des gens, transmettre les traditions, encore une fois, à travers tout l'art du griot qu'est le sage malien.
Alors, j'ai cru que vous alliez dire marier des genres, parce qu'il y a plusieurs genres sur l'album. Il n'y a rien écrit, juste un double visage, deux femmes qui se tiennent, une noire et une blanche, qui n'en font qu'une. Au dos, il est écrit ceci. L'Amomali, l'album malien de M. Pourquoi cette précision géographique? C'est quoi un album malien?
Ben c'est une façon de dire que c'est pas un album habituel, c'est pas le nouvel album de M où j'aurais que mes chansons, c'est vraiment un album collectif, un album collaboratif sur le partage et sur l'idée effectivement d'associer voilà la France et le Mali, mais aussi d'associer aussi quelque chose de plus universel puisqu'il y a aussi des artistes un peu du monde entier.
Vous dites que vous racontez un Mali qui n'existe pas, comme les écrivains du 19e qui racontaient des îles sur lesquelles ils n'étaient jamais allés.
Alors c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est vrai que je le fantasme un peu comme une muse. Le Mali devient une muse, une femme, parce que c'est vrai que ça a été une histoire d'amour pour moi, une rencontre amoureuse. Donc le Mali, je le vois comme quelque chose de très féminin.
Vous avez dit, en parlant du Mali, j'ai eu l'impression d'être enfin rentré chez moi. C'est une façon de parler où vous vous sentiez pas chez vous, à Paris, en France?
Non, je dirais que c'est plutôt une façon de rentrer en moi.
Ah.
Dans le sens où c'est quelque chose, c'est un retour aux racines, à la terre, et qu'on est évidemment dans ce monde un peu hors sol, un peu déconnecté, et qu'on a ce besoin tous à notre façon de se retrouver un peu plus dans nos racines.
Vous parlez du Mali fantasmé, moi je vais parler du Mali concret. Une grande partie du pays est occupée par les djihadistes, les islamistes qui ont interdit la musique. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire de chanter, ça m'inspire de danser, ça m'inspire justement tous ces métissages, cette idée de mélanger nos cultures et de faire ce genre d'album. Ça m'inspire cet album.
Ah non, mais ça vous fait pas peur? Le premier concert, si je suis bien informé, pour l'album L'Amomali, vous l'avez donné en janvier à Bamako.
Oui.
C'était dangereux?
Oui, évidemment. On m'a déconseillé parce que il y a un danger partout. Mais dans ce sens-là, tout est dangereux, évidemment. Il y avait des militaires un peu partout à Bamako. On sentait une sécurité impressionnante. Et d'une certaine manière, je me suis senti beaucoup plus en sécurité à Bamako qu'à Paris. Parce qu'il y a quelque chose, il y a aussi cette âme malienne incroyable. C'est des gens qui ont une paix en eux, qui transpirent aussi une certaine sagesse et puis une beauté, une grâce. Pour donner une formule, nous, on est dans ce monde obsédé par le signe extérieur de richesse. Ce qu'on trouve chez eux, c'est des signes intérieurs de richesse. Et c'est vrai que c'est ça qui me bouleverse, c'est que ils ont une réponse en eux qui en tout cas est une vraie initiation pour moi.
Alors, il y a une tournée qui se prépare. Je peux absolument pas tout donner, parce que sinon, on serait là demain. Il y aura Lille, il y aura Nantes, ce sera des Zéniths, il y aura Bordeaux, il y aura Paris, ce sera Solidaise, il y aura Bruxelles, Clermont-Ferrand, Arles, Montreux, les Vieilles Charrues, à Carré, La Rochelle. Il y a aussi, pardon, c'est toujours moi qui parle, parce qu'il y a tellement de monde sur cet album. Oxmo Puccino, Philippe Jarouski, Louis Chédid, votre papa, Amadou et Mariam, Ibrahim Malouf, Seou Georges, Nekfeu, Youssou N'Dour. Il y aura une tournée de 35 dates. Qui sera sur scène avec vous?
Alors c'est d'abord l'Afro-Pop Orchestra, on l'a surnommé comme ça.
Ah oui.
Parce que c'est vrai que c'est ce mélange de musiciens maliens et de musiciens un peu plus hip-hop et rock. Et évidemment, tout au long de cette tournée, il y a des invités. Oxmo Puccino va heureusement nous rejoindre assez souvent. Mais effectivement, Seou Georges, Philippe Jarouski...
Ils vont tous venir.
Ils vont tous venir, mais passer, quoi. C'est comme un peu une grande maison ouverte, comme ça, d'artistes, où les gens passent et viennent nous faire un petit coucou. Et donc, on va avoir des surprises un peu tout au long de cette tournée.
Ça sera en tournée dans toute la France. Et M, Mathieu Chédid est avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Mathieu Chédid avec nous, qui vient de sortir son 6e album studio, parce qu'il y en a tellement des floppés, des DVD. Ça s'appelle L'Amomali. Et qui sera en tournée dans toute la France. Ça commence des Nuits de Fourvière et ça se termine notamment au Nice Jazz Festival. Waouh, c'est pas rien. Vous allez faire du jazz au Nice Jazz Festival? Vous allez faire votre musique à vous?
Non,
normal.
Tu sais, non, on va faire notre musique et puis on va jouer à Montreux d'ailleurs aussi, ce qui sont des festivals. J'avais failli dire des festivals effectivement de jazz.
Dans l'album L'Amomali, vous chantez ceci. Au-delà des désastres de nos biographies, c'est quoi le désastre de votre biographie?
Non, c'est-à-dire qu'on est, c'est pour parler un peu de, ben voilà, de nos petites vies, quoi. C'est-à-dire que
oui, mais une vie, c'est pas une biographie. Une vie, c'est une vie. Et quand quelqu'un l'écrit, oui, ça devient une biographie.
Oui, parce que c'est une façon d'avoir de la distance. Et parce voilà, que sur cet album-là, je suis un peu le narrateur, moi, de cet album, de ce voyage. Et c'est vrai que je me suis un peu, c'est pour ça que je me suis pris un peu, avec évidemment des grands guillemets et beaucoup d'humour, pour le griot blanc, quoi. C'est-à-dire que je suis un peu le griot de cette aventure.
Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi le désastre de votre biographie, si tant est qu'il y en ait un?
Oui, c'est-à-dire que c'est une façon, quand on a du recul sur les choses, il y a un sourire sur aussi la petitesse de nos vies, parce qu'on n'est jamais parfait. Donc, c'est une façon de sourire un peu de nos petites fragilités.
Juste un mot. Quand vous avez créé le personnage de M il y a 20 ans, vous aviez dit que ça allait durer 2-3 ans. 3-4 ans. Vous vous rappelez de ça ou pas?
Parce que j'ai un petit problème, effectivement, avec le... J'ai du mal à voir les choses dans le temps. Et d'ailleurs, plus j'avance dans ma vie et plus je suis un fils de l'instant, plus je vis dans le moment, quoi. J'ai du mal à projeter. C'est vrai que le temps passe vite, quoi.
Et pourquoi vous avez changé? Je vais vous dire, ouais, je ne savais pas ceci de vous. J'ai découvert des trucs terribles sur vous. Non, pas terrible, mais une histoire personnelle pas si facile. Ouais. C'est Libé qui balance. Quand vous étiez petit, vous étiez enrobé.
Ouais.
On vous appelait vraiment gras double à l'école.
Oui, c'est vrai.
Pardon de vous dire ça, mais...
Non, c'est vrai.
Mais c'est horrible. Et vous aviez envie, ce qui est intéressant, c'est la suite. Il y a deux options. Soit c'est la fuite, soit c'est la baston. Vous vouliez taper les autres élèves.
Ça, je sais pas faire, ça.
Ou vous étiez complètement inhibé sur vous-même.
Non, c'est-à-dire que j'étais dans une espèce d'acceptation un peu molle, quoi. Parce que j'étais pas... Je laissais faire les choses. J'étais très spectateur de la vie.
Ah oui.
C'est vraiment un miracle que d'être devenu acteur. Puisque c'était pas du tout... Moi, je regardais la vie comme ça de loin, et le monde féminin aussi d'une manière incroyable. C'est-à-dire que j'étais le bon copain des filles, mais j'avais pas du tout ce côté... je sais pas comment dire, c'est ce rapport sensuel.
Alors, autre chose, il y a votre voix. Je ne savais pas, vous dites avoir eu beaucoup de mal à accepter votre voix. Mmh. Elle est parfaite, votre voix.
Quand un défaut devient une qualité, c'est génial.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que j'allais demander un petit pain au chocolat à la boulangerie, on me disait « oui, mademoiselle, ne quittez pas ». Même aujourd'hui, quand j'appelle, par exemple, que je commande un taxi ou je sais pas quoi, on me dit « madame, ne quittez pas ». C'est-à-dire que j'ai ce côté très féminin. Regarde, ferme les yeux, écoute. Non, j'ai une voix de femme mûre aujourd'hui.
C'est vrai que Johnny en personne vous a dit « il faut que tu chantes comme un homme ».
Oui, oui, bah oui, parce qu'on s'amuse bien avec Johnny.
Ah, mais pour vanner.
C'est vrai que c'est comique parce que je fais des sons de guitare énormes et puis après quand je parle à Johnny, je fais « Alors ça va Johnny ?» Enfin tu vois, avec une petite voix. D'ailleurs, ça me rappelle un duo génial avec Johnny, ouais, en studio, un morceau assez surréaliste et on chantait l'un face à l'autre. Et c'était génial parce que lui est tellement puissant dans sa voix que quand il chantait lui, alors qu'il était assez loin de mon micro, c'était 10 fois plus fort que quand je chantais collé à mon micro.
Ça repissait, comme on ça dit,
repissait
par l'autre micro.
Ça repissait exactement par l'autre micro et c'était 100 fois plus fort que ma voix collée au micro. Voilà, donc il y a un décalage d'énergie. Alors moi, je me compensais avec ma guitare.
Alors, je vais pas citer toutes vos collaborations. Puisqu'on parle de Johnny, c'est peut-être le seul album que vous avez fait qui a moins bien marché.
Exact.
Comment vous avez vécu ça?
Assez bien, parce que c'est-à-dire que moi, je suis pas obsédé par le succès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter des choses.
Ah oui, on dit toujours ça quand ça marche pour soi.
C'est vrai. Mais c'est, mais en tout cas, c'est un miracle absolu. C'est-à-dire que là, encore une fois, la Momalie, je fais ça comme un espèce d'expérience extraordinaire, humaine, musicale et symbolique. C'est vrai que ça rencontre, on peut dire, vraiment un succès. Et c'est vraiment phénoménal pour moi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est Johnny qui est venu vers moi pour me demander de faire ce disque. C'était déjà très touchant, mais d'une certaine manière, ça je le dis. Enfin, c'est un peu honteux de le dire, mais j'ai refusé de faire ce disque avec Johnny au départ. Parce
ah
que,
oui,
bah oui, parce que c'est pas ma culture. Enfin, je veux dire, je suis très respectueux de cet homme, mais c'est pas ma culture. Johnny Hallyday, cet environnement, c'est pas du tout ma famille.
Mathieu Chédid, M, avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Mathieu Chédid, avec nous sur France Info. C'est vrai, quand vous aviez 8 ans, vous avez vu Superman et cela a changé votre vie.
Oui, j'ai un souvenir assez marrant. Ça m'a transcendé effectivement et je me rappelle que j'avais le poing en avant comme ça à la Superman et je courais autour du cinéma. Et j'arrivais pas à sortir de la salle de cinéma d'ailleurs.
Ah, mais ce qui m'intéresse, c'est maintenant. En quoi ça a changé votre vie? Parce que moi, je pensais que M, votre personnage, c'était Batman. Et je me suis dit, non, mais c'est Superman.
Oui, c'est vrai que bizarrement, c'est Superman qui m'a le plus marqué. Parce que c'est quoi? C'est les super-pouvoirs, c'est l'idée de... Peut-être sûrement d'un mythe, l'archétype du héros. Il y a quelque chose après aujourd'hui que j'essaie d'analyser comme ça.
Ou le fait qu'il se change?
Bah complètement. C'est vraiment la transmutation intérieure, de passer d'un... J'aime profondément cette idée d'être dans un quotidien quelqu'un d'assez simple et de pouvoir se transcender sur scène et d'inventer un personnage.
Votre tête, elle est connue maintenant, mais est-ce qu'il est arrivé que votre personnage soit très célèbre et votre tête pas connue, comme les mecs de Kiss qui peuvent prendre le métro?
Non, ceux qui font les plus forts là-dessus, c'est quand même Daft Punk.
Ah oui, ah bah oui, mais
le nombre de fois où j'ai bu des cafés ou des déjeuners avec eux et que c'est moi qu'on vient emmerder, ça me fait trop marrer.
Et ils disent quoi, eux?
Bah, ils disent. Enfin, je sais pas ce qu'ils disent d'ailleurs, mais enfin,
ils disent bien fait pour ta gueule.
Mais c'est un peu ça, oui. Non, parce que d'un autre côté, moi, j'aime les gens et ça me pose aucun problème. Et aussi, j'aime les gens, mais c'est vrai qu'ils sont préservés de ça. C'est assez génial.
Mais vous-même, est-ce que c'est déjà arrivé le truc totalement schizophrène que quelqu'un vous parle de M sans savoir que c'était vous M?
Ça m'arrive très souvent.
Encore maintenant?
Ça peut m'arriver encore, ouais.
On vous dit quoi?
Et on m'a fait mieux encore. On m'a pris pour Amir.
De l'Eurovision.
Oui, parce que c'est vrai que je sais pas. Alors, ça m'a d'un côté un peu fait flipper, d'un côté rassuré, parce que c'est un mec très charmant et qui a 15 ans de moins que moi, donc je me dis, ça c'est pas mauvais signe, mais bon, c'est assez drôle. Et non, oui, on a dû me parler déjà de. Alors, de M, non, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on me dit, on me prend pour le sosie de M, ça très souvent, parce que ça c'est classique, hein. Et parfois j'ai entendu des gens qui me disent, ah ouais, vous lui ressemblez tellement, et qui me parlent de M, effectivement, alors que c'est moi.
En bien ou en mal?
A priori en bien pour l'instant. Ouais.
Est-il vrai que vous étiez dans la même classe que Thomas Dutronc?
Oui, à Sévigné.
Et que lui était premier et vous dernier?
Exact.
Est-il vrai que vous avez tout quitté à 6 mois du bac pour partir en tournée comme guitariste d'un groupe de blues?
Exact. Ouais, le Gen X Band, ouais, exactement. C'est la scolarité chez les Chédid, c'est pas l'exemple fou. C'est pas d'ailleurs, j'en suis pas forcément fier, hein, mais ouais. Non, c'est vrai que.
Ah mais oui, c'est vrai que votre père aussi avait des problèmes en classe.
Ouais.
Comment il faisait pour vous engueuler? Sans que vous puissiez lui retourner,
mais
dis donc toi-même qui me parle.
C'est ça, exact. Bah, c'est un peu ce qui se passe avec ma fille et moi aussi, d'ailleurs. Ouais.
Est-il vrai, Mathieu Chédid, que vous habitez, je cite Libé en prenant mon souffle, une demeure du XVIIe siècle commanditée par Richelieu en plein cœur du 5e arrondissement de Paris?
Ouais.
Est-il vrai que Madame de Montespan y a élevé les enfants illégitimes de Louis XIV?
Oui.
Qu'est-ce qui reste de cet esprit? Est-ce que vous dites qu'il y a des fantômes?
Ah, évidemment, c'est incroyablement chargé. D'ailleurs, il y a même des endroits où il a fallu nettoyer un peu l'énergie tellement c'était. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a un passif incroyable.
C'est pas pour ça que j'ouvre des grands yeux. C'est qu'est-ce que c'est, moi qui suis très cartésien, c'est quoi nettoyer l'énergie?
Non.
On prend la pelle et le seau. Comment on nettoie l'énergie?
Oui, non, je pense qu'il y a des gens, effectivement, ça c'est toujours pareil. C'est un peu à l'image des Maliens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'invisible que nous. Nous, on est un peu cartésien. Il faut que tout soit scientifiquement prouvé. Mmh. Mais moi, je crois quand même qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, heureusement. Et donc, il y a des gens qui ont, alors, à travers effectivement des énergiciens, des machins, tu sais, les sourciers, tu sais, ces choses-là. Alors, je sais plus exactement. C'était une copine, à mon avis, qui avait ramené une herbe, je sais plus qu'il faut brûler, tu sais, faire un truc. Et j'ai senti une différence.
Vous vous mettez à me tutoyer et vous avez senti une différence après qu'elle a brûlé l'herbe.
C'est ça.
Je vois bien le genre d'herbe. Est-il vrai qu'un ami, c'est vous qui l'avez dit, un ami m'a initié au jogging?
Oui.
Pardon, hein, mais courir, tout le monde sait courir.
Bon, j'avais commencé un tout petit peu avant, mais j'ai rencontré cet ami au cine qui m'a effectivement initié dans le sens où c'est quand même un art, le jogging, c'est pas juste courir.
Ah oui,
oui, parce que
déjà, moi je croyais que c'était courir. Moi je croyais que c'était mettre des baskets et courir.
Il y a de ça, mais en même temps il y a un art parce qu'on peut sinon se faire assez mal aux chevilles, aux genoux, aux machins. C'est-à-dire qu'il faut savoir courir. La posture, les machins, il y a une manière de courir qui fait qu'on se fait du bien. Parce que courir, on peut se faire du mal en courant aussi. Donc on va dire qu'il m'a appris à bien courir.
On terminera sur ces foulées. Merci beaucoup, Mathieu Chédid, d'être venu nous voir.
Un plaisir, merci.